Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous sur Radio Présence pour ce 165e numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end de la Toussaint, aussi reposant et délassant que possible. Certains chanceux parmi vous sont sans doute encore en vacances cette semaine et l'on constate aussi une petite relâche dans l'actualité musicale, mais relative et qui ne va pas durer. Dès samedi, les affaires vont reprendre à haute intensité jusqu'à la fin du mois. Nous allons vous préciser tout ça pendant cette émission que je vais avoir le plaisir de co-animer une nouvelle fois avec le toujours fidèle Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. À ses côtés, l'invité d'honneur de ce numéro, Clément Lanfranchi, pianiste, claveciniste, organiste, chanteur et fondateur, directeur musical du Consort Apollon. Ce jeune ensemble sur instruments anciens qu'il va diriger lundi prochain 8 novembre à l'église Saint-Nicolas de Toulouse, pas très loin de nos studios d'ailleurs, pour un concert intitulé « De Venise à Paris ». Nous allons découvrir le détail de ce programme avec Clément Lanfranchi en seconde partie d'émission. Dans l'immédiat, nous allons revenir sur l'actualité récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Un retour arrière qui va être uniquement consacré à des concerts que nous vous avions annoncés il y a deux semaines, ceux du Toulouse Wind Orchestra, lorsque nous avions reçu Guillaume Leblanc, le co-directeur de ce grand orchestre d'harmonie toulousain. Il y a eu deux concerts à Saint-Pierre-des-Cuisines mercredi et jeudi dernier, concert intitulé Sacre 2021, parce qu'il y avait le Sacre du printemps de Stravinsky au programme. Nous allons y revenir, mais avant cela, le TWO, on peut l'appeler aussi comme ça, a interprété deux autres œuvres, des œuvres de compositeurs contemporains écrites directement pour ce genre de formation. Quelles étaient ces œuvres et ces compositeurs, Serge? J'ai trouvé personnellement que c'était de belles découvertes.
Ah, absolument. Il y avait tout d'abord une œuvre d'une compositrice française, malgré son nom, puisqu'elle s'appelle Ida Godkowski, et c'était une œuvre donc tout à fait nouvelle et intéressante, et qui s'appelle, alors qui a presque le même titre qu'une œuvre de Scriabine, puisqu'elle s'appelait Le Poème du Feu. Et c'est une œuvre qui date des années 70, et vraiment à découvrir. Hein. Alors moi, ce qui m'a frappé dans cette œuvre, c'est l'éclat, les couleurs, les explosions, on pourrait dire même, des instruments.
Et c'est puis, le feu.
C'est vraiment le feu. Très très bien. Alors, il faut quand même préciser que le TWO, donc pour utiliser une dénomination britannique,
c'est la British.
Voilà, la British, était dirigé par Rémi Durupt, qui est vraiment un chef de grand talent, qui a déjà été récompensé par notamment un premier prix au concours de direction Antal Dorati de Budapest, qui n'est pas rien, hein, en septembre 2001, et d'autres même. Et alors là, on a pu constater vraiment la qualité de cet orchestre, qui dont l'effectif dépassait 80 musiciens. Hein. Et puis alors, quand on est habitué au concert de la Halle au Grain donné par l'Orchestre National du Capitole, eh bien on reconnaît parmi les musiciens de l'orchestre avant, on reconnaît de nombreux musiciens de l'Orchestre National du Capitole, plus d'autres musiciens qui viennent de phalanges tout à fait prestigieuses, hein, d'Europe, hein, on peut dire même, pas seulement de France.
Alors oui, ce qu'on peut indiquer, c'est que la plupart sont issus du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, donc ce sont des amis, ce sont des copains, hein, qui sont connus pour la plupart au Conservatoire, et puis après, ils se sont dispersés un peu partout en France et même en Europe, effectivement, et puis il y en a quand même une grosse majorité qui sont restés dans la région toulousaine.
C'est ça, oui, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, une très belle première œuvre, assez courte, hein, d'Ida Godkowski. Donc, et ensuite, après cette pièce à la fois volcanique et explosive, une autre pièce que, pour ma part, j'ai beaucoup aimée, qui est une pièce d'un jeune compositeur américain qui s'appelle John Mackey et qui s'appelle The Frozen Cathedral, la cathédrale congelée, en quelque sorte. Alors, je me suis renseigné pour savoir d'où venait un titre pareil. Eh bien, j'ai découvert qu'elle était composée à la mémoire du fils d'un ami du compositeur qui était fasciné par l'Alaska. D'où ce sujet congelé, en quelque sorte, hein, pour cette œuvre. Alors, c'est une œuvre extrêmement brillante, mais qui n'est pas aussi explosive que l'œuvre de Godkowski, mais qui est très colorée, avec des sonorités tout à fait inhabituelles, avec en particulier un instrumentarium dont je découvrais quelques éléments. Alors il y en a un particulier qui m'a frappé. Il était joué par Florent Tesser, qui est le percussionniste que l'on connaît bien à Toulouse et qui participe
à de
nombreuses formations. Et cet instrument s'appelle, il me l'a dit lui-même, le Water Sound. Alors, Water Sound, c'est un instrument dans lequel on verse de l'eau et qui a des tiges métalliques que l'on frotte avec un archet. Et ça fait des sons très particuliers, très bizarres. Donc, vraiment intéressant.
Mais il avait déjà pratiqué alors cet instrument ?
Non, pas du tout. D'accord. Il le découvrait ce soir-là, m'a-t-il avoué. Donc, c'est pas un instrument très courant. Donc, vraiment, une œuvre que j'ai trouvée vraiment imprégnée d'une certaine magie sonore. Et donc d'une grande séduction, une œuvre presque impressionniste en quelque sorte.
Oui, alors là, il y avait renfort d'instruments par rapport à la première œuvre.
Exactement. Hein. D'abord, déjà, il y avait des contrebasses qui intervenaient, alors que la première œuvre était intégralement par des instruments avant. Et puis oui, quelques instrumentistes supplémentaires qui...
Mais il y avait une harpe, sauf erreur de ma part.
Oui, il y avait un piano. Absolument, un piano, oui, absolument. Donc vraiment une richesse instrumentale et qui se traduisait par ces sonorités un peu étranges.
Voilà, deux belles découvertes effectivement avec ces deux œuvres de compositeurs contemporains. Alors Ida Godkowski a 88 ans, Jörg Macki 48, c'est pas la même génération. Non. D'ailleurs ça sent un petit peu aussi dans la composition, oui, hein, soyons clairs. Entr'acte. Et après, alors là, c'était le morceau bravoure de la soirée, ce qui donnait le titre à ce programme, Sacre 2021, je le rappelle, le Sacre du printemps. Mais alors, le Sacre du printemps dans une version, évidemment, arrangée pour ce type de formation.
Exactement. Et alors, on m'a indiqué que celui qui avait transcrit le Sacre du printemps pour instrument avant était Bruno Peterschmidt, donc français. Et je trouve qu'il a fait de l'excellent travail, parce que vraiment... Bon, il y a peu de différence et il n'a pas essayé de se distinguer.
C'est un petit peu différent, évidemment.
Mais légèrement, vraiment.
Mais ça garde vraiment toute l'essence et toute la flamboyance aussi de cette œuvre.
Oui. Mais alors, il faut préciser que le titre de la soirée, Sacre, s'écrit, c'est un sigle, S-A-C-R-E, pour Société Ancestrale Célébrant les Ressources et les Éléments. Alors ça fait sacre. Donc c'était une petite astuce, un petit pied de nez là aux traditions. Donc vraiment très intéressant. Et donc, eh bien, on a vu apparaître pendant l'entracte un proscenium devant et l'orchestre s'est tassé en quelque sorte au-delà de ce proscenium puisque il y avait une chorégraphie dansée par quatre danseurs d'une compagnie locale, enfin que l'on connaît un peu, la compagnie de danse Humanum. Donc, là aussi, avec d'abord un culot incroyable de faire une nouvelle chorégraphie sur le Sacre du printemps.
Et à quatre en plus.
À quatre. Et vraiment une chorégraphie que, pour ma part, j'ai trouvé très réussie, hein, puisque sur cette... participation, d'abord il faut rendre à César ce qu'il en est, donc les chorégraphes c'était Léa Perrat et David Mazon-Fierro, donc qui dansaient évidemment, et puis il y avait deux danseuses supplémentaires, donc Virginie Baillet d'Artigalong et Frida Ocampo, donc, et alors l'idée de cette chorégraphie c'était de proclamer un plaidoyer pour la terre, en quelque sorte.
Ben, rappelons les deux parties du Sacre du printemps, les titres. Oui. Hein. Première partie, Adoration de la terre. Seconde partie, Le sacrifice.
Voilà.
Alors, c'est un spectacle qui a une dimension, écologique. On ne trouve pas d'autre mot. Hein.
Ah oui, nettement.
En tout cas, défense, effectivement, de la nature, de la planète, adoration de la terre. Et puis, alors, le sacrifice, on peut le comprendre comme on veut.
Oui,
Est-ce que c'est l'humanité qui est en train de sacrifier la terre ? Est-ce que c'est, l'humanité qui se sacrifie elle-même ? On peut aussi l'interpréter comme ça.
Hein. Oui, exactement.
Donc, les danseurs, il y a trois femmes, un homme. Hein.
Trois femmes, un homme.
C'est pas neutre. Hein.
Oui. Trois femmes, un homme. Et comme accessoire, des balles de paille. et des balles de paille qu'ils massacrent au milieu du spectacle, hein, qu'ils détruisent, qui éclabousse jusque dans les premiers rangs.
Ah bah, il y en a pas partout à la
des
fin.
Des musiciens de l'orchestre. C'était vraiment impressionnant. Hein. Et donc, mais très convaincant et dansé, et mimé, vécu avec une telle conviction qu'on ne pouvait qu'adhérer. Quoi. C'est vraiment très bien. Et puis, disons, la qualité musicale de l'exécution, hein, à la fois très précise, très colorée, très bien menée par le chef, Rémy Durupt. Donc, ouais, vraiment bravo pour cette performance.
Hein. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Vraiment.
Ah oui, moi aussi.
Déjà, hein. Je suis un grand fan du Sac du Printemps.
Et oui.
Mais voir une danse dessus, je me demandais ce que ça allait donner et non, c'était très réussi.
Ouais. C'était parfaitement réussi. Alors, ce qui était intéressant, ce n'était pas redondant sur la musique.
Non, ça apportait quelque chose en plus. Mais, ça racontait une histoire, hein, clairement.
Mais c'était très cohérent avec la musique. Hein. Ouais. Tout en apportant une dimension supplémentaire, comme vous avez dit, un peu écologique, hein, carrément. Donc vraiment très bien, et ça a eu un grand succès auprès d'un public dont il faut préciser quand même que l'auditorium était archi-comble.
Ça a été comble pour les deux concerts, les deux dates.
Archi-comble d'une part, et paradoxalement, enfin à mon avis, c'est avec beaucoup d'enfants.
Oui,
énormément
des gens qui étaient venus en famille. Alors bon, il y a 85 musiciens sur scène, donc il y a beaucoup, je suppose, de frères et sœurs, de parents, de cousins, d'amis. Bon, tout ça, ça fait que ça aide beaucoup à remplir la salle. Mais bon, encore fallait-il le faire, parce qu'en ce moment, toutes les salles ne sont pas pleines, malheureusement.
Non, hélas. Surtout les grandes salles ne sont pas pleines.
Mais là, je pense qu'ils auraient pu accueillir encore, des spectateurs supplémentaires.
Absolument. Et donc, et moi, j'ai observé autour de moi, la réaction des enfants était très positive, hein, et en particulier avec le bis.
Alors voilà, on va en venir au bis. Moi, je pense que les enfants, ce qui les fascine aussi, c'est tout l'instrumentarium, les cuivres qui rutilent. C'est vrai que visuellement aussi, ça a de la gueule, pour le dire un peu vulgairement.
Ah non, mais le ballet les a
oui, bien sûr,
vraiment
bien sûr,
hypnotisés bien sûr. Un peu. Hein. Oui. Et donc il y avait en bis, eh bien...
Il y a toujours une surprise avec le TWO à la fin. Hein.
Ah, toujours, oui.
Eh bien, c'est pas un bis classique. Hein. C'est toujours quelque chose qui sort de l'ordinaire.
Non. Ah non. Et là, il s'agissait alors de la danse macabre de Saint-Saëns. Mais danser, donc avec de nouveau les quatre danseurs, plus la violoniste, une violoniste qui est également déguisée en squelette et qui venait de faire son solo parmi les danseurs, frénétique sur cette danse macabre. Alors ça a enchanté les enfants, et pas que les enfants. Donc,
on n'était pas loin d'Halloween en plus.
Ah oui, c'est vrai.
Je pense
penser
aussi dans cette optique.
Oui, puisqu'ils avaient les costumes avec le squelette dessiné et phosphorescent.
Macabre, hein. C'est les squelettes qui sortent des tombeaux et qui dansent à la nuit tombée, danse macabre. Mais une danse qui n'est pas que macabre.
Oui, non, qui n'est pas que macabre, mais en particulier, bon, très intéressant en tout cas. En tout cas, beaucoup d'imagination et c'était un spectacle tout à fait novateur.
La violoniste, c'était Audrey Dupont, on va la citer, Dupont, qui est membre de l'orchestre de chant de Toulouse et qui est aussi une ancienne du conservatoire. Je pense que Clément Lanfranchi la connaît bien. Voilà, donc tout son habit de squelette. Deux soirées à guichet fermé, grand succès, grand succès. Et tant mieux, on en est très heureux pour le TWO. Je n'ai pas à disposition d'extrait des œuvres au programme des concerts de la semaine dernière joués par le TWO à vous proposer, mais pour vous faire entendre ce bel orchestre, nous allons écouter une de celles que l'on retrouve au sommaire de leur CD de best-of récemment paru, la Symphonic Overture de James Barnes. Thank you. la Symphonic Overture de James Barnes, interprétée par le Toulouse Wind Orchestra, un extrait de leur CD Best Of que vous pouvez vous procurer sur le site web de l'orchestre. Petite pause avant de vous présenter l'agenda de Mélomanie en compagnie de Serge Chosy et Clément Lanfranchi. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
La suite et l'agenda de ce numéro de Mélomanie avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur, Clément Lanfranchi, fondateur et directeur musical du Consort Apollon, en concert lundi 8 novembre à 20h30 à Toulouse, en l'église Saint-Nicolas, avec un programme intitulé « De Venise à Paris ». Nous allons évoquer ce concert et son programme avec Clément Lanfranchi dans quelques minutes. Mais auparavant, je voulais qu'on annonce et qu'on présente le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, samedi 6 novembre à 20h à la Halle aux Grains, un concert où l'on va retrouver le jeune chef allemand Thomas Gougueis à la tête de la phalange toulousaine, Serge.
Oui, et ce sera la troisième fois qu'il vient à la phalange. Il était venu une première fois le 6 mars dernier, il avait donné un concert à huis clos et qui avait vraiment frappé les gens. C'était merveilleux, avec notamment Prélude et Mort d'Isolde et Ainsi par la Zarathoustra. Et il est revenu le 10 juillet dernier pour jouer du Sibelius, diriger du Sibelius. Et il revient cette fois dans un programme à la fois contrasté, parce que Ravel et Mahler, c'est pas vraiment le même style de musique.
Pas tout à fait.
Mais qui ont des points en commun quand même. C'est l'époque, hein, sont composées à 2 ans d'intervalle, hein, ces deux œuvres, et elles ont toutes pour origine la poésie. Pas la même, évidemment, mais la poésie. Et donc, la première œuvre, ce sera de Maurice Ravel, « Ma mère Loi ». Alors, une des versions de « Ma mère Loi » particulière, puisque d'abord, Maurice Ravel l'a composée à l'intention de deux jeunes enfants d'amis à lui, et les Godkowski, et donc il l'a écrite pour piano à quatre mains. Donc c'était 5 pièces pour piano à quatre mains. Et ensuite il les a orchestrées pour en faire la suite que l'on entend le plus souvent en concert. Et puis il a encore élargi cette orchestration pour en faire cette fois un ballet, en rajoutant un prélude, une scène, un tableau supplémentaire et des interludes. Et pour ma part, ça sera la première fois que j'entends en concert le ballet intégral.
Je n'ai jamais entendu non plus, hein. C'est très rarement donné.
C'est très rare.
C'est pour ça que c'est un des intérêts de ce concert.
Un des grands intérêts. Donc nous entendrons le ballet Ma mère Loi, alors à partir évidemment des contes bien connus de diverses origines, hein, puisqu'il y a à la fois les contes contes de ma mère Loi.
Oui, c'est les contes de ma mère Loi. Il y a des contes de Perrault, mais pas seulement.
Pas seulement de Perrault, oui, aussi de deux autres autrices de contes, donc un peu plus tardives. Et ensuite, la deuxième œuvre, ce sera Le Chant de la Terre. Ce cycle de 6 leaders avec orchestre, qui a d'abord été considéré par Mahler comme une symphonie, puisqu'il l'avait baptisé lui-même symphonie pour ténor, alto ou baryton et grand orchestre. Alors, on pense qu'il l'avait baptisé symphonie pour essayer de contourner cette fameuse malédiction des 9e symphonies. Il en avait déjà composé 9. Et on sait que Beethoven a composé 9 symphonies, Schubert aussi, et Dvorak, Bruckner.
Donc, malédiction vraiment, de la dixième.
Malédiction. Alors, on pense qu'il l'avait donc baptisé symphonie pour cette raison. Puis il a composé quand même une neuvième et puis il avait commencé
une dixième
qu'il n'a pas pu mener à bien. Et donc il a fait partie lui aussi des malédictions puisqu'il n'a pu composer intégralement que 9 symphonies. Donc ce Chant de la Terre, c'est 6 leaders à partir d'un cycle de poésie qui s'appelle La Flûte Chinoise. Et des poèmes chinois, donc, qui ont été adaptés en allemand par le poète Hans Bethke, qui en a fait la version que l'on connaît, mais que Mahler a révisé aussi, hein, parce qu'il aimait bien...
Mais c'est sa Chine à lui, si je puis dire.
Voilà, exactement.
C'est la Chine rêvée de Mahler.
Exactement. Et donc, on entendra ces 6 mélodies chantées alternativement par le ténor et cette fois une mezzo-soprano, alto ou mezzo-soprano, donc avec surtout ce dernier lead, Der Abschied, qui est l'adieu, qui est une pure merveille. Hein. Dernier lied qui est aussi long que l'ensemble des 5 qui le précèdent, d'ailleurs. Et nous aurons deux chanteurs, de grande qualité, puisque la mezzo-soprano s'appelle Tania Ariane Baumgartner, et on l'a déjà vue à Toulouse, puisqu'elle chantait Ariane du château de Barbe Bleue, Judith en fait, du château de Barbe Bleue de Béla Bartok. Et elle avait aussi un rôle dans Le prisonnier de Luigi Dalla Piccola, qui faisait partie de la même soirée lyrique. Donc on est très heureux de la retrouver, elle avait fait sensation à l'époque. Et puis on découvrira, je pense, à Toulouse, le ténor Attilio Glaser, un ténor allemand également, donc qui a récemment obtenu un énorme succès dans le rôle du duc de Mantoue, de Rigoletto, donc voilà, deux grands chanteurs, et puis un magnifique chef d'orchestre, et puis l'orchestre que l'on connaît.
Thomas Gougaïs, formé entre autres par Daniel Barenboim.
Et oui, il fut l'assistant même de Daniel Barenboim à Berlin.
Daniel Barenboim qui va diriger cette année le concert du Nouvel An à Vienne pour là, je ne sais plus, quatrième, cinquième fois, je ne sais plus trop. Alors, Ma mère Loi, ben, c'est une des plus éblouissantes réussites de Maurice Ravel, une de ses œuvres les plus emblématiques. Voici la dernière partie de cette pièce sublime, L'apothéose, le jardin féerique. Apothéose, le jardin féerique, dernière partie de Ma mère Loi de Maurice Ravel, dans une version dirigée ici par Michel Plasson à la tête de l'Orchestre National du Capitole. Et c'est une des deux œuvres avec le chant d'alter de Gustav Mahler que va donner l'Orchestre National du Capitole, cette fois-ci sous la direction de Thomas Gougaïs, ce samedi 6 novembre à 20h à la Lograin. À nous maintenant, Clément Lanfranchi. Je vais rappeler rapidement votre parcours personnel de musicien, parce qu'il est riche, il est déjà long malgré votre jeune âge. Vous avez débuté par le piano, la musique de chambre au Conservatoire Rayonnement Régional de Toulouse, puis vous êtes passé au chant, à la direction de chœur avec Rolandas Mouleika, il y a aussi l'orgue, le clavecin, et puis enfin la direction d'orchestre à l'ISDAT avec Tougan Sokiev et Sabriye Bekirova. La dernière étape, tout naturellement, c'était de créer votre propre orchestre, ce que vous avez fait en fondant le Consort Apollon il y a près de 2 ans. Et je propose qu'on commence notre échange en précisant qui sont les musiciens qui vous accompagnent depuis le début dans cette aventure. La plupart sont très jeunes comme vous.
Tout d'abord, un grand merci Éric Dupri et Serge Chosy de m'avoir invité à cette émission. C'est toujours un plaisir de vous voir. Pour répondre à votre question, le Consort Apollon, évidemment, s'inspire de ce qui se passe à Toulouse. Pour les musiciens, ce n'est pas très compliqué. Quand je suis arrivé au département de musique ancienne, donc il y a 2 ans maintenant, dirigé par Gilles Colliard au Conservatoire de Toulouse, j'ai rencontré quasiment tous les musiciens qui allaient composer le Consort Apollon. Et c'est avec cette grande rencontre que j'ai eue avec toutes ces personnes-là, dont certains que je connaissais depuis plus longtemps et d'autres que j'ai rencontrés grâce à ce département. L'idée m'est venue assez rapidement. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose? Il y a un vivier extraordinaire ici de musiciens et de musiciens de grand talent. Et donc, voilà, tout est parti de là pour le Consort Apollon.
Donc l'idée existait depuis quelques années, elle a fini par germer pour de bon. Bon, il fallait que, comme on dit, les planètes s'alignent.
Disons que c'est toujours la grande question pour un jeune et un apprenti chef d'orchestre et chef de chœur, de se dire comment on peut créer quelque chose, par quels moyens, quel est l'élément déclencheur. Alors, c'est mon deuxième ensemble, en fait, puisque le premier, je l'avais créé à Montpellier. Il a duré 2 ans. J'avais créé ça, alors, sans moyens, rien du tout. C'était juste à la passion. Et j'avais eu la grande chance de travailler, notamment avec le CNRS de Montpellier, où on avait travaillé sur des ouvrages lyriques du 18e siècle français. C'était une aventure formidable. Mais bon, j'ai dû revenir sur Toulouse pour suivre ces cours avec Maestro Bekirova et grâce à Maestro Sokiev, que je remercie encore, avec toutes ces connaissances que j'ai pu acquérir ici. Donc j'ai dû revenir à Toulouse et donc le projet s'est éteint. Et évidemment, il fallait que je recrée quelque chose. Donc voilà, je ne souhaitais pas forcément à la base faire exclusivement de la musique ancienne, mais j'ai l'impression que la musique ancienne m'appelle toujours. Et donc j'ai dit, allez, on y va, on fonce dans ce projet et voilà où ça en est aujourd'hui.
Donc ces musiciens, une vingtaine aujourd'hui, 20, 25
En moyenne, pour la formation orchestrale, on est une vingtaine, oui.
Voilà, professionnel, en cours de professionnalisation ou tous professionnels?
Il y a les deux. Certains travaillent depuis longtemps, d'autres n'ont pas forcément encore la chance d'être sur les planches, entre guillemets, notamment dans ce répertoire-là. Donc voilà, c'est une histoire, c'est surtout une histoire d'amitié et de partage et de une vision commune qu'on a tous, tous les musiciens et moi-même, à vouloir faire ce répertoire. Et voilà, donc en effet, il y a beaucoup de profils différents.
Donc déjà, le principe, instruments anciens uniquement,
oui,
c'est la règle.
Exactement, oui.
Et les objectifs que vous êtes fixés avec cet ensemble, c'est un répertoire bien particulier ou qui s'élargit par rapport à ce que vous aviez imaginé au départ?
Alors oui, donc je rebondis en effet sur ce terme d'instruments anciens. Peut-être une toute petite correction, j'aimerais avoir des instruments anciens d'époque, mais c'est quasiment impossible. Donc, il faut bien rappeler aux auditeurs que la musique ancienne, notamment avec cet ensemble, le Consort Apollon, nous sommes sur des instruments copies d'époque.
Oui, oui.
Mais en effet, ce sont des instruments qui sont calibrés, qui sont fabriqués pour qu'il y ait vraiment la sonorité des époques du XVIIe, du XVIIIe siècle, voire même parfois du XVIe siècle. Donc évidemment, les violons, par exemple, sont avec des cordes en boyau. Les traversos, par exemple, donc ce n'est pas des flûtes traversières, mais des traversos, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'était une petite précision qui, je pense, est importante. Et puis, en termes de répertoire, moi j'ai eu la chance de travailler très jeune, notamment avec Rolandas Mouleika, avec qui je travaille toujours au sein de l'ensemble Antifona. J'ai travaillé longtemps le répertoire français. et notamment le répertoire du Grand Siècle. Alors, c'est vrai que j'ai une affinité particulière avec ce répertoire, avec cette époque, mais je suis toujours ouvert, toujours curieux de découvrir d'autres compositeurs, parfois français, mais parfois aussi étrangers. J'ai eu la chance à Paris plusieurs fois de faire des concerts avec certains ensembles où j'ai découvert Zelenka, par exemple, qui est un immense compositeur, je trouve, pas assez joué ici en France.
Récemment Pied de Saint-Pierre.
Et c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, donc il y a plein de répertoires que j'ai envie d'aborder. Mais c'est vrai que c'est plus facile au début de commencer avec une musique que l'on pratique depuis longtemps. Et donc c'est vrai que la musique française, c'est un petit peu mon cheval de bataille aujourd'hui.
C'est le cœur quand même un peu du répertoire du concert Apollon. Et puis c'est la musique que vous aimez, que vous avez envie de défendre.
Et puis c'était la musique qui occupait tout le programme du 27 septembre
tout
dernier.
Hein,
donc avec Rameau et Lully,
une belle
suite.
Alors là, vraiment, on est dans le grand répertoire, le grand siècle français. C'est vrai que c'est une période que j'adore et que j'aime beaucoup montrer. Surtout que c'est une manière aussi de montrer que le répertoire français et le patrimoine français est toujours vivant. Je pense bien sûr évidemment à Lully, mais je pense aussi à Couperin, je pense à
Charpentier,
évidemment, Campra et autres. C'est un répertoire qui est vivant et j'aime à croire que avec la petite pierre que j'apporte avec le Consort Apollon, eh bien, on permet au public de se réapproprier un peu ce répertoire et cette musique.
Alors, autre précision, vous aviez donné votre premier concert juste avant le confinement à l'église Saint-Pierre des Chartreux, mais depuis, il semblerait que votre nouveau port d'attache soit l'église Saint-Nicolas, où va avoir lieu le concert dont nous allons parler dans quelques instants, le lundi 8 novembre. Pourquoi Saint-Nicolas, il y a une sorte de partenariat avec cette église, cette paroisse?
Vous savez, la musique, comme beaucoup d'art de par le monde et beaucoup de disciplines, c'est aussi une question de rencontre. Au départ, en effet, j'avais eu cette idée d'aller à Saint-Pierre-des-Chartreux, qui est une église absolument magnifique.
Et qui est la paroisse étudiante.
Et c'est vrai que le Consort Apollon a notamment pour mission, pour objectif, de faire que la jeunesse toulousaine puisse assister aux concerts et qu'elle ait des opportunités de venir voir des concerts de musique ancienne qui parfois ont un peu cette image de musique très vieille, que l'on ne comprend pas. Il faut être un peu esthète pour comprendre cette musique. Voilà, être initié. C'est quelque chose que je combats un petit peu avec le Consort Apollon et même moi en tant que musicien indépendamment de l'ensemble. Et donc, quoi de mieux que la paroisse étudiante, vu que l'on travaille très souvent dans les églises, nous. Je n'ai pas encore la chance de pouvoir travailler dans des salles de concert, je l'espère un jour. Et donc, la paroisse étudiante était pour moi un lieu idéal. Donc, on a commencé avec eux. Et puis, bon, la crise sanitaire est arrivée, il y a eu toutes sortes de freins, mais en tout cas, pour d'autres raisons, j'ai rencontré l'équipe de la paroisse Saint-Nicolas, donc chez qui j'ai fait la première vidéo de l'ensemble. C'était pour Noël de l'année dernière, donc on était en plein Covid, et j'avais espéré faire un concert, même s'il n'y avait pas de public. Donc avec les moyens du bord, nous avions filmé ce concert, et c'était à Saint-Nicolas. Je suis, d'une certaine manière, tombé un peu amoureux de cette église qui est très peu connue, en fait.
Oui, c'est vrai.
Très, très peu connue, même des Toulousains, alors que c'est une église qui est quand même fort grande, parce que je crois qu'il y a à peu près 300 places assises.
Qui a un très bel orgue aussi.
Qui a un très, très bel orgue, en effet.
Et une acoustique excellente.
Et une acoustique absolument fantastique. Et en plus de cela, c'est un endroit qui, non content d'avoir un charme, permet aussi à l'ensemble le Consort Apollon de travailler dans une acoustique un peu compliquée et de faire du répertoire qui n'est pas forcément joué dans ces endroits-là, mais voilà, de travailler un peu sur les différences acoustiques. Et voilà, donc je suis tombé amoureux de cet endroit et je m'entends très très bien avec toute l'équipe, et donc c'est naturellement comme ça que
les choses se sont faites.
Exactement.
Eh bien, nous allons nous plonger maintenant avec vous dans le programme de Venise à Paris que vous allez jouer, je le rappelle, le 8 novembre avec vos camarades du Consort Apollon. Mais d'abord, un premier extrait dans cette émission pour nous mettre dans l'ambiance. Il s'agit de la sonate opus 1 numéro 10, Didon abandonné de Giuseppe Tartini, dont voici le quatrième et dernier mouvement, Allegro commodo.
Thank you.
quatrième et dernier mouvement Allegro commodo de la sonate opus 1 numéro 10 Didon abandonné de Giuseppe Tartini, la première pièce au programme du concert de Venise à Paris que donne le consort Apollon lundi 8 novembre sous votre direction Clément Lanfranchi. Alors dites-nous de quelles œuvres et compositeurs est constitué ce programme et comment vous l'avez construit.
Alors tout d'abord, ma réflexion s'est portée sur quel type de concert je peux faire sur cette saison. Évidemment, les concerts avec le grand ensemble, c'est toujours des grands moments et j'espère en faire beaucoup. Mais j'avais dans l'idée aussi, qui était dans un coin de ma tête, d'avoir un peu le courage ou pas d'aborder un répertoire plutôt de musique de chambre aussi sur certains concerts. Et donc l'idée m'est venue de créer ces rencontres en tête-à-tête, voilà, qui sont des moments musicaux qui sont plus dans une dynamique de musique de chambre et aussi d'apporter au public la lumière sur des compositeurs ou des compositions, parfois de compositeurs connus ou moins connus. Voilà, donc de jouer ces œuvres-là qui ne sont souvent pas très jouées en concert. Et donc, ces rencontres en tête-à-tête, je voulais tenter l'expérience dès le début de la saison. Donc normalement, si tout se passe bien et que cette année nous pouvons jouer jusqu'au mois de juin, il y aura deux autres rencontres en tête-à-tête, si je ne dis pas de bêtises, en février et en avril. Donc avec d'autres compositeurs, évidemment. Et donc, musique de chambre, quoi jouer? Alors c'est sûr qu'il y a un énorme répertoire qui existe, mais quand j'ai commencé ma formation au département de musique ancienne, évidemment, on nous a donné beaucoup d'œuvres à jouer, et moi j'ai vraiment fait la rencontre de plusieurs compositeurs que je n'avais jamais joué de ma vie. Et donc ma réflexion s'est d'abord portée là-dessus, tiens, est-ce que telle ou telle œuvre, ça pourrait coïncider avec une idée? Et donc, comme je voulais faire cette première rencontre en tête-à-tête, je voulais que le sujet soit un petit peu fédérateur, et donc je suis parti sur l'idée de la sonate, alors qui est un thème assez vaste, évidemment, et donc de montrer ce que la sonate avait pu faire, voilà, ce que la sonate pouvait donner en Italie et en France, dans une période que j'aime beaucoup, le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc ma réflexion s'est portée là-dessus. Et puis j'ai voulu travailler donc cette fois-ci en trio, et notamment donc de jouer des sonates en trio. Et donc là, pour le coup, sur ce concert, je ne vais pas diriger, mais je vais jouer au clavecin, et j'aurai deux amis et collègues de l'ensemble avec moi pour ces œuvres-là.
Alors, rappelons que l'Italie influençait un peu toute la musique européenne à la fin du XVIIe et durant la première moitié du XVIIIe. Bon, évidemment, on va penser à Lully, qui lui arrive en France tout de même. Il a 13 ans, hein, c'est pas encore un musicien complètement accompli, donc il va finir, même faire l'essentiel de sa formation musicale en France. On dit que c'est un Italien qui a fait la musique française, c'est pas tout à fait vrai tout de même. Voilà, alors Tartini, lui, vénitien, parce que Padoue, en fait, il est de Padoue, je crois, il fait sa carrière à Padoue, et c'était le royaume de Venise à l'époque.
Exactement, alors tout le programme donc est sur 5 œuvres de 5 compositeurs différents. Donc d'abord, je voulais partir en Italie parce que, évidemment, l'Italie a été, comme vous le disiez, prépondérante dans l'histoire de la musique, et notamment dans la sonate, puisque c'est là que la sonate, la suonata, est apparue. Et donc, je voulais quand même faire au moins deux œuvres de un ou deux compositeurs italiens avant de partir en France. Et donc, avec mes collègues, nous avons vu un petit peu les œuvres que nous avions un petit peu dans les mains, que nous avions déjà un peu travaillé ensemble. Et donc, Giuseppe Tartini, qui est un des plus grands maîtres du violon, en fait, même si Vivaldi a pris un petit peu le dessus, ou d'autres compositeurs ont un petit peu pris le dessus et sont plus connus aujourd'hui, Giuseppe Tartini, qui est donc un compositeur purement italien. Lui, il est né en actuelle Slovénie, oui. Voilà, mais qui faisait à l'époque partie du royaume de Venise, et il a travaillé donc à Padoue une grande partie de sa vie, et donc il a composé bon nombre de sonates pour violon, accompagné par la basse continue. Et là, donc, comme l'extrait vous l'avez montré, donc ce sera la dixième sonate pour violon, dite Didone Abandonato, donc Didon abandonné, qui reprend évidemment le mythe de Didon, le mythe grec, qui a été repris de nombreuses fois par, par beaucoup de compositeurs. Et donc voilà, c'est une première image de la sonate en Italie, et c'est la première œuvre du concert.
Alors après, il y aura Domenico Gabrielli, lui, Bologne, mais c'était aussi le royaume de Venise à l'époque.
Exactement.
La sonate pour violoncelle en sol majeur.
Oui, exactement.
Et après, on part en France, mais on part en France avec une compositrice, parce qu'il y en avait aussi à l'époque. Oui. Et c'était la plus grande de la période du grand siècle, hein, fin du règne de Louis XIV jusqu'au tout début du règne de Louis XV, et qui s'appelait Élisabeth Jacquet de la Guerre. Quel joli nom.
Oui, en effet.
Et quelle jolie femme, semble-t-il, en plus.
Il paraîtrait, oui. Les tableaux qui la représentent montrent quand même une femme tout à fait charmante, et tous les écrits qui parlent d'elle montrent que c'était une musicienne hors pair, donc qui en effet a vécu l'immense majorité de sa vie sous le règne de Louis XIV, et elle a connu le tout début du règne de Louis XV. C'est une femme absolument extraordinaire à l'époque, une des rares compositrices en exercice toute sa vie, qui a à la fois enseigné et à la fois joué. C'était une virtuose du clavecin. Il faut savoir que dès l'âge de 5 ans, elle jouait devant le roi. Donc elle était vraiment déjà à la cour. Alors, il faut savoir qu'elle était fille d'un musicien, lui-même compositeur. Son père était compositeur et interprète. Donc elle a baigné dans la musique très tôt, et le clavecin a été... l'élément déclencheur, et elle a travaillé toute sa vie à la composition de bon nombre d'ouvrages, notamment donc ces sonates pour violon qu'elle va écrire, enfin son recueil va paraître en 1707, donc la deuxième partie de sa vie, et donc là vous entendrez la première sonate, donc en ré mineur, d'Élisabeth Jacquet de la Guerre, donc en troisième œuvre.
Et puis donc deux autres œuvres, Joseph Baudin de Boismortier, qu'on avait évoqué il y a quelques temps dans cette émission avec Jean-Marc Andrieux, dont nous allons parler dans quelques minutes. Il y aura la sonate en trio opus 50 numéro 6 en ré majeur. Alors Boismortier à l'époque aussi très célèbre, lui, hein.
Oui.
Beaucoup moins maintenant. Mais...
Alors il est plus sur l'époque de Louis XV, mais en effet, c'est un compositeur qui est extrêmement prolifique. Bon, comme quasiment, en fait, les cinq compositeurs que nous programmons sur ce concert, ce sont des personnalités à part qui ont vraiment énormément travaillé. Et Boismortier a été connu bien sur ses opéras, sur ses oratorios, mais aussi a été connu et reconnu à l'époque comme un compositeur ayant écrit pour tous les instruments possibles et imaginables. Donc c'est vraiment une grande chance que nous ayons encore ces partitions aujourd'hui qui nous soient parvenues de nos jours. Et puis on terminera avec Jean-Baptiste Barrière, compositeur français aussi.
Oui, je pense totalement oublié aujourd'hui.
Ah, oui.
Exactement.
Mais très très connu à l'époque parce que c'était un immense virtuose du violoncelle.
Oui, tout à fait.
Même connu dans toute l'Europe, je crois.
Exactement. Et c'est aujourd'hui, on va dire, un des compositeurs phares pour les étudiants en violoncelle baroque. C'est vraiment une des références en la matière. Et donc voilà, ces cinq compositeurs seront à l'honneur dans ce concert.
Alors Barrière, c'est intéressant parce qu'il a séjourné en Italie. Donc bon, on boucle la boucle. Hein, on commence en Italie et on finit avec un Français qui a lui-même vécu en Italie et travaillé en Italie. Nous avons entendu Tartini tout à l'heure, un des compositeurs italiens au programme de ce concert de Venise à Paris. Nous allons donc maintenant écouter un compositeur français, en l'occurrence Joseph Baudin de Boismortier, dont voici un extrait de la sonate en trio opus 50 numéro 6 en ré majeur, le deuxième mouvement Allegro.
Thank you.
Le deuxième mouvement Allegro de la sonate en trio, opus 50, numéro 6 en ré majeur de Joseph Baudin de Boismortier, une des œuvres au programme du concert de Venise à Paris que donne le Concerto Apollon, sous la direction de Clément Lanfranchi, lundi 8 novembre à 20h30 à l'église Saint-Nicolas de Toulouse. Un mot sur les solistes qui vont vous accompagner pour jouer toutes ces œuvres.
Tout à fait. Donc j'ai la grande chance d'avoir deux amis au violon et au violoncelle pour ce concert et qui sont là depuis le début de l'aventure du Concerto Apollon. J'ai la chance de travailler donc avec Sophie Castin au violon, qui est mon violon solo en fait depuis le début de l'aventure.
Remarquable.
Avec qui j'ai travaillé aussi, enfin que j'ai étudié à l'ISDAT, hein, nous étions dans la même promotion. Voilà, qui travaille dans bon nombre d'ensembles, à l'orchestre de chambre, à l'orchestre du National du Capitole en tant que supplémentaire depuis longtemps. Voilà, donc c'est une grande, grande artiste. Et puis Sophie Castella au violoncelle, que j'ai rencontrée, elle, au département de musique ancienne, une très, très belle rencontre. Voilà, une violoncelliste de talent qui enseigne aussi le violoncelle. Voilà, donc deux amis avec moi pour faire ce concert lundi prochain.
Et puis je signale que votre prochain concert ensuite aura lieu le 6 décembre, ce sera une nuit de Noël avec des œuvres de Charpentier, Torelli et Corelli, ce sera encore franco-italien. Nous allons terminer cette partie agenda en annonçant et en vous présentant le programme de deux concerts un peu particuliers qui ont lieu lundi et mardi prochain respectivement à Montauban et Toulouse. Le 8 novembre, c'est à l'auditorium du Conservatoire de Montauban et le 9 novembre, c'est à Saint-Pierre-des-Cuisines, les deux fois à 20h. Ces concerts sont le fruit d'un partenariat entre l'Orchestre des Passions de Montauban et l'ISDAT, l'Institut supérieur des arts de Toulouse. 24 étudiants en diplôme national supérieur professionnel de musicien à l'ISDAT, 23 instrumentistes et une soprano vont interpréter sous la direction de Jean-Marc Andrieux, le directeur artistique des Passions de Montauban, un programme de musique baroque française. Et voilà, on y est encore. Quelles œuvres et quelles compositeur va-t-on y entendre, Serge ?
Eh bien, on entendra d'abord Michel Richard de Lalande, bien connu lui, avec les symphonies pour les soupers du roi, œuvre festive s'il en est, puis François Couperin avec le 8e concert royal, puis André Campras, l'Europe galante avec des airs pour soprano, donc d'André Campras, de Jean-Marie Leclerc, nous entendrons la deuxième récréation de musique, donc ces quatre mouvements qu'il a constitue. Et puis, le concert s'achèvera avec la suite d'orchestre des Indes galantes, plus exactement, de Jean-Philippe Rameau, bien connu de notre invité d'honneur d'aujourd'hui.
Voilà, il est un peu chez lui, là, oui, Clément Lanfranchi, parce que donc, c'est les élèves de l'ISDAT. Il a été lui-même étudiant à l'ISDAT. Oui. Jean-Marc Andrieux, vous avez chanté avec Jean-Marc Andrieux il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Et puis, c'est un programme de musique baroque française. Vous y serez à ces concerts, inévitablement.
Je ferai tout pour être là, évidemment.
Celui à Toulouse. Alors, on va préciser que c'était une initiation à la musique baroque qui vient d'avoir lieu au Grand Couvent de Gramat pour ses étudiants, avec Jean-Marc Andrieux et avec Odile Édouard, professeur de violon baroque au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, autour donc de ce programme baroque français. Ils en sortent tout juste, c'est une sortie de résidence en quelque sorte. Voici un avant-goût du programme des concerts des 8 et 9 novembre que vont donner les étudiants de l'ISDAT à Montauban et à Toulouse, sous la direction de Jean-Marc Andrieux, avec les deux tambourins des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau. Thank you. Les deux tambourins des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau dans une version du Concert des Nations dirigé par Jordi Savall, une des pièces au programme des deux concerts de musique baroque française que donnent les étudiants de l'ISDAT sous la direction de Jean-Marc Andrieux, lundi 8 novembre à l'auditorium du Conservatoire de Montauban et donc mardi 9 novembre à Toulouse à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ces deux concerts commencent à 20h. Entrée libre pour le premier, mais il est conseillé de réserver ses places par mail à l'adresse production@les-passions.fr. Pour le second à Toulouse, il faut réserver sur le site www.wizevent.com. C'est la fin de ce numéro de Mélomanie auquel je remercie chaleureusement Serge Chosy et Clément Lanfranchi d'avoir participé. Concernant le concert de l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Thomas Gougaïs, ce samedi 6 novembre à 20h à la Halle aux Grains avec un programme Ravel Mahler, vous pouvez vous renseigner, réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Et pour le concert de Venise à Paris que donne le Consort Apollon dirigé par Clément Lanfranchi, ce lundi 8 novembre à 20h30 à l'église Saint-Nicolas de Toulouse, dans le quartier Saint-Cyprien, vous pouvez vous renseigner sur le site www.leconsortapollon.com. Merci à Francky Guéret d'avoir assuré la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée désormais les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de nous être toujours fidèles et très bonne semaine musicale à tous.